Auditrices, auditeurs, salut, c'est les Échos du Charbon, là où on reçoit ceux qui font le café charbon à Nevers. Je sais pas vous, mais moi ça m'a toujours frappé de voir et entendre ce que peuvent faire certains artistes qui nous font aimer l'automne, étonnamment. Belle fourrée de cela.
Viens là t'abriter, larmes au point d'oublier les miennes.
C'est un rock folk lancinant que nous propose ce duo et Dieu sait que ça fait du bien d'entendre ça dans le paysage musical français. Salut Lucie, tu es une des moitiés de Belfour, comment vas-tu ?
Eh ben écoute, je vais très bien, on a très hâte, il y a Mickaël qui est à côté de moi en voiture, on a super hâte de jouer à Nevers pour la première fois quand même, c'est la première fois qu'on va jouer à Nevers.
Bon, on a aussi très très hâte de vous voir. Alors, moi je connecte énormément à certains univers musicaux, je les connecte ces univers à des saisons, à des atmosphères, et en fait, moi, je dois dire que je vois à mort l'automne dans Belfour.
Ah ouais.
Et c'est peut-être cette mélancolie des mots, et puis l'imagerie aussi que vous avez utilisée.
Ah ouais,
alors, parce que
le clip de Fila est cool.
Ouais, voilà, je pense que ça a énormément joué, parce que vous avez un rapport très fort au paysage, vous avez des racines auvergnates, si je ne me trompe pas.
Ouais, tout à fait. Bon, on a un studio d'enregistrement qui est près du lac de Cervère en Auvergne. Là, on a tourné le clip.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on, quand on répète à chaque fois, on s'évade, on va au lac, et on a cette chance-là en Auvergne. On a tous les lacs, les volcans. Donc, en deux secondes, on fait une petite pause et
ouais.
On va respirer, ça fait du bien.
C'est important pour vous de revenir aux racines ?
Ah ouais, c'est hyper. Très important, on est hyper attachés, enfin tous les deux, au Puy-de-Dôme, au volcan.
Ouais.
Et moi, c'est là où j'ai. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on navigue entre deux villes maintenant, entre Montreuil et Clermont-Ferrand, mais le fait d'être. De ne pas y être tout le temps, ça fait qu'on est encore plus attachés.
Ouais.
Puis moi, c'est là où j'ai grandi et. On m'appelle la chanteuse mélancolique. je suis assez nostalgique, forcément, l'enfance. C'est un peu sacré, alors ouais.
Ouais, et du coup, ça enrichit aussi artistiquement votre propos et tout ce que vous faites, j'imagine.
Ah, alors est-ce que le paysage a vraiment un impact
au moins les racines.
Ouais, peut-être. Il faudrait faire une étude là-dessus. Si effectivement, l'environnement. Peut-être, ouais. Ouais, que ça a une incidence. Il y a de l'air dans notre musique, effectivement. Il y a de l'espace.
À vos débuts, vous étiez plutôt garage rock, blues ?
Alors, au tout départ, quand on a commencé la musique, du coup, on était plus à l'américaine.
Ouais.
C'était nos influences de départ, c'était le blues. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est appelé Belfour. Ça étonne beaucoup les journalistes quand ils nous disent « Mais pourquoi vous appelez Belfour ?» Bah, c'est un hommage à un bluesman américain qui s'appelle Robert Belfour. On se demande comme ça un petit peu le lien. Mais on écoutait beaucoup de blues. Moi, j'ai vraiment écouté beaucoup de blues quand j'étais adolescente. J'étais complètement en décalage avec les jeunes de mon âge.
Ouais, ouais, j'imagine.
Ouais, j'étais à 16 ans. C'était Johnny Hooker. C'est vraiment ce que j'aimais, quoi. Et en fait, on a gardé ce nom-là avec Mickaël parce que ça a du sens pour nous. C'est une musique de terre.
Ouais.
C'est peut-être d'ailleurs ça peut nous ramener également à l'Auvergne, ce côté.
Oui.
Grand paysage et tout ça, mais un côté très terrien, très pur, authentique. C'est une musique qui s'accroche au cœur.
Récemment, vous êtes tourné vers des influences un peu plus modernes, si je puis dire, puisque vous alliez chansons, influences électroniques un peu sur certains morceaux.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression que vous vous êtes révélé avec cette légère glissade entre les genres ?
Alors, on a en tout cas pour le. Parce que nous, c'est un petit peu un cycle qui se termine cette fin d'année.
Mmh.
Parce qu'on vient de terminer un nouvel album qui sortira dans quelques mois.
Ouais.
Et effectivement, on a vraiment évolué vers des sons plus synthétiques. Même si le style de mes textes, la voix est toujours la même. Mais là, pour le coup, je me suis influencée. Enfin, il y a toujours une imagerie. Mais le côté cinématographique des années 80-90 nous a vachement inspiré.
D'accord.
Et donc, ouais, il y aura un côté plus 80s.
Ouais.
Et un petit peu plus lumineux aussi, on avance tout ça. Parce que du coup, notre premier disque avec Hilaire Vercoul, on l'a fait ça fait partie de nous et c'est vraiment des chansons qu'on jouera encore en concert quand il y a la couille. Moi, c'est un morceau, je rigole souvent en concert en disant que je vais jouer aux choses qu'on chantera jusqu'à nos 90 ans. On est encore là. Et voilà, du coup, c'est important aussi dans un concert de proposer des... Enfin, moi, j'aime bien quand je vois un concert, avoir des univers un petit peu différents, pas écouter le même morceau à chaque fois. Donc, on a vraiment essayé de se pousser pour aller un petit peu plus loin sur de nouvelles chansons un petit peu différentes pour vraiment emmener les gens à voyager quand tu vois le concert, où t'as envie de rire, puis t'as envie de pleurer. Puis,
c'est ça.
Comme quand tu vois un bon film américain.
Oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, vous êtes mouvant à mort dans vos influences et dans ce que vous faites musicalement. Vraiment, vous bougez entre les genres, quoi. Vous n'êtes pas seulement le groupe mélancolique, quoi. Pas du tout.
Non, ouais, c'est ça. On n'est pas effectivement exclusivement folk, rock. Il y a ce côté aussi qu'on a. Bah, tu verras demain, hein, tu verras un petit aperçu. On a pas mal écouté des groupes comme Talking Heads aussi, là, qui nous ont.
Ouais, c'est important de le préciser pour les auditeurs et les auditrices. Et donc, quand on voit les adjectifs qui sont utilisés pour vous qualifier, on a clair-obscur, on a aussi les émotions avec lesquelles on voit, vous voulez jouer sur scène. Hein. on veut faire pleurer, on veut faire rire le public. Enfin voilà, il y a tout ça, preuve que la dualité, elle va bien au-delà du simple fait d'être un duo, en fait. C'est aussi, j'ai l'impression, la dualité, donc le fait d'être un duo, c'est aussi le fragile équilibre entre ce qu'on partage dans les chansons, le mystère que l'on voudrait garder. Est-ce que c'est votre parti pris ou pas? Est-ce que vous vous révélez peut-être un petit peu plus encore dans le prochain album, par exemple?
C'est beau ce que tu dis, dis donc.
merci.
Ouais, c'est avant tout que ce soit le reflet de la vie, en général, quoi. Et la vie, c'est pas tout rose. Voilà, et puis, mais des fois, on se sent bien, on se sent libre, on a envie de crier, on a envie de danser. Et le nouvel album, je pense qu'on commence à être vraiment à notre place. Et du coup, en concert, c'est génial parce qu'on s'éclate.
Ouais.
On peut vraiment s'amuser. Moi, j'adore de passer d'un morceau plus folk, plus intimiste, à un morceau où. Je vais aller chercher des gens, aussi une forme de folie. Ouais. Ça, j'aime bien aussi. Les gens, souvent, sont étonnés par rapport au disque quand ils nous voient sur scène. Parce qu'il y a des morceaux qui bougent, parce que, on va chercher le public.
Ouais. Et oui, alors que, en fait, le public croit que vous cultivez un certain mystère ou. C'est l'impression que j'ai. Et du coup, se trouve surpris en concert.
Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Mais c'est, enfin, en général, j'ai l'impression que c'est une bonne surprise.
Donc, ouais. Ça va. Tant mieux.
Mais on aime bien aller, pas forcément là où on nous attend. Par exemple, on a fait un truc marrant une année, on a joué au Stade Marcel Michelin. Donc, pour les auditeurs de Nevers, je sais pas si tu connais le Stade Marcel Michelin, c'est le stade de rugby à Clermont-Ferrand. Et on a joué à une mi-temps devant 14 000 personnes à la Rivière Cool. C'était tellement génial parce que c'est d'habitude ils font passer des groupes qui font taper dans les mains des gens et nous on a fait cette chanson mais en même temps on a essayé d'y mettre de la lumière et c'était touchant parce que c'était le moment où la guerre en Ukraine démarrait. Donc en même temps on a lancé un petit message de paix parce que cette chanson elle parle de paix malgré tout, même si je parle d'une amitié d'enfance où on s'est discuté prendre l'importance de l'amitié. On a essayé de le ramener au contexte actuel à ce moment-là et c'est hyper beau là. J'étais touché le public du rugby.
Comme quoi. On est aussi une terre de rugby à Nevers. C'est un public qui peut être touché. C'est des gens très sensibles.
Qui viennent nous voir alors les rugbymen demain.
Exactement. Je reviens un tout petit peu sur les textes qui font quand même partie intégrante de vos chansons, évidemment. Vous avez commencé avec de l'anglais, vous êtes passé de l'anglais au français et tu as dit que ça a comme révélé une partie de toi à l'auditeur. Je me souviens que c'est Charlotte Gainsbourg aussi qui avait dit ça quand elle était passée de l'anglais au français, que ça l'avait révélé à mort, que ça l'a mis un peu toute nue, tu vois. Je voulais savoir si t'arrivais encore à écrire en anglais ou alors si le processus il est définitivement beaucoup plus personnel maintenant avec le français et le restera en fait.
Ah oui, non, j'écris plus du tout en anglais. Puis Mickaël, pour le coup, écrivait plus que moi sur le projet en anglais parce qu'il parlait mieux que moi. Donc c'était compliqué, hein. C'était compliqué d'écrire en anglais. Par contre, le chanter, ça, j'adore parce que j'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne.
Ouais.
Mais bah, c'est vrai que du coup, écrire dans sa langue natale, c'est quand même vachement plus simple. Et puis voilà, il y a aussi bah, le point de départ de l'écriture en français. Je me suis vraiment dit, ah, j'ai envie de raconter des choses. Je savais ce que j'avais envie de raconter, c'était cathartique, quoi.
Ouais.
Une chose de ce que j'avais vécu, vraiment essayer de parler plus de moi, que ce soit plus personnel.
Ouais.
Alors que le projet en anglais, je parlais moins de moi.
Ouais, c'est beaucoup plus facile de jeter les mots quand c'est ta langue maternelle, en fait.
Oui, bah ouais, c'est sûr. Puis je pense que l'anglais, il y avait aussi un petit peu les idoles qu'on a en tête.
Ouais, c'est ça.
Pour se détacher.
Ouais,
et
voilà.
Tu vois, Pete Jarvis, j'aimais beaucoup Pete Jarvis, tout ça. Bon, bah, ou même le blues, tu vois. J'ai un prof de chant qui m'a dit, mais c'est pas alto, en fait, que je chante toujours très grave.
Mm.
Et il a fini par me dire, mais ici, en fait, c'est pas ta voix. Donc, ouais, c'est ça aussi, la musique, c'est trouver sa voix, quoi.
Ouais. Et puis là, c'est bon, ça semble être bien parti.
Ouais, là, maintenant, j'ai accepté ma douceur. Voilà.
Oh, super. Bah, merci, Lucie. On a très hâte de te voir sur scène ce jeudi.
Super hâte avec Mickaël, voilà, d'être à Nova. C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, j'ai rencontré un covoitureur. J'étais en covoiturage, il y avait un monsieur de Nevers et on parlait de ça. Et c'est marrant, quelques mois plus tard,
se trouver
à jouer au Café Charbon, c'est génial.
Ouais, et ben on a super hâte de t'accueillir et le public de Nevers aussi, en tout cas. Merci Lucie, tu fais partie du duo Belfour qui se produira donc ce jeudi 5 décembre au Café Charbon dans le cadre des concerts à tout petit prix.
Ouais, merci beaucoup.
Vous jouerez avec Catherine Grindorge qu'on retrouve justement en interview dans un instant. Mais en attendant, on s'écoute Si la rivière coule de Belfour.
Je m'y suis accroché à ces grillages pires que l'atoll. Pour tenter d'y échapper, fallait bien que je la console. À la première mêlée, t'es arrivée à mes yeux. À nous deux, on transportait tout le désespoir de nos vieux. Les mots coincés dans la gorge, tu me les as tirés un à un. Paraît-il qu'on se forge entre ces murs des 8h20. Puis les rires sont venus entre les disques qui se rayent. Et ces fameuses disputes, ça fumait dans l'appareil. Si la rivière coule ici, que la rivière coule. Prévu de berline, même pas besoin de tout ça. S'émerveiller comme gamine, on se la racontait pas. On rêvait les belles histoires qui font mouiller les mouchoirs. Un road trip à la Delma, Héloïse sera toi. Elles seront toujours plus belles si on se les raconte en vrai. Ce sera nous les deux rebelles. Et y'aura pas de grands regrets. Sortir de cette foutue cuvette qui te donne tant de soucis. On se criera qu'on est bête de s'être dit que c'était fini. Si la rivière coule ici, que la rivière coule. Si la rivière coule ici, que la rivière coule. Et que la vie elle nous fait mal, on se pardonnerait nos querelles. À comparer ça vaut que dalle. Qu'un complice à la récré, ça se trouve pas à chaque saison. C'est vrai qu'à force de cliquer, on en perd la direction. On en perd la direction. Thank you.
vous êtes sur Bec FM et c'est toujours les échos du charbon. Au fil des années, elle a su bâtir son univers en mélangeant les genres mais aussi les disciplines, en collaborant avec d'autres artistes, Nick Cave, Warren Ellis, Debbie Harry. Iggy Pop en a fait l'éloge sur la BBC, « We need more artists like her », on a besoin de plus d'artistes comme elle. Catherine Grindorge, bonjour. Vous produirez au Café Charbon à Nevers. Merci bonjour. De prendre le temps de répondre à nos questions. Alors, vous multipliez les projets au théâtre, au cinéma. Vous avez sorti un album peu plus tard que cette année. J'imagine que cette effervescence de projet, ça stimule énormément la créativité. Ou alors, est-ce que ça fait un peu beaucoup?
Non, c'est stimulant. Puis, j'aime diversifier... les créations et les collaborations, donc l'un un projet nourrit l'autre, donc j'aime beaucoup ça.
Ouais, parce que vous avez notamment travaillé pour le cinéma, pour le théâtre aussi. La dimension visuelle de la musique, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous?
Oui, c'est très important. Alors je suis à la base, je suis musicienne, mais je suis aussi comédienne. Mmh. Et j'ai créé en tant que comédienne et j'ai créé aussi mes propres spectacles. Théâtre musique, théâtre danse, et donc j'ai une approche aussi assez émotionnelle et assez liée à la dramaturgie de la musique en fait. Le visuel c'est important pour moi.
Oui, et puis vous avez un univers qui est aussi très immersif. Hein. Enfin, quand on écoute Songs for the Dead ou alors votre EP The Dictator. On ne fait pas que les écouter, en fait, parce que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Je trouve que c'est des morceaux qui viennent vraiment habiter la conscience. Est-ce que c'est le genre de musique que l'on fait plus facilement avec l'expérience, ou est-ce que ça a toujours été la nature de vos compositions? Est-ce que vous êtes toujours partie dans cette ligne-là?
Je suis toujours partie dans cette ligne-là. Je reprends la phrase. Je suis toujours partie dans cette ligne-là. En fait, j'improvise... toujours, quasi essentiellement, quand je commence à créer ou à composer de la musique pour le théâtre, le cinéma, pour la danse ou pour moi-même. Oui. Donc, je pars d'impro et puis après, je retravaille ces impros. Et donc, j'ai toujours une approche assez sensible et liée à l'émotion, à la musique.
Oui. D'ailleurs, vous composez pour vous, mais vous avez aussi composé pour les autres. Est-ce que c'est plus facile dans certaines circonstances? Parce qu'on sait que chacun, justement, a son univers. Quand on compose comme ça pour les autres, on vient enrichir l'univers des autres en piochant dans le sien, ou c'est le contraire?
Je dirais que c'est l'un et l'autre se nourrissent. Je pense que si on me propose de créer la musique pour un projet, c'est aussi parce que c'est mon univers, forcément. Ouais. Donc, j'amène ma touche personnelle à un projet qui n'est pas le mien. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je dois chercher le trajet le plus juste, entre guillemets, qui pourra servir ce projet qui n'est pas le mien. Mm-hmm. Donc, oui, ça se fait toujours dans les deux sens. Je ne pourrais pas complètement oublier mon univers pour créer la musique pour quelqu'un d'autre.
Et alors comment ça s'est passé avec Iggy Pop? Vous avez enregistré un EP ensemble. Le point de départ, c'est son émission sur la BBC, je le rappelle à nos auditeurs. Il avait diffusé l'un de vos titres dans son émission de radio. Et puis, juste après, vous lui avez proposé de collaborer sur un EP que vous avez composé.
Oui, comme je fonctionne assez à l'instinct,
ouais.
J'avais reçu un mail de l'attaché de presse de mon label pour m'informer qu'il avait passé deux de mes morceaux. Mmh. Et j'avais juste répondu que si un jour que je le remerciais très fort, et que si un jour il avait besoin de violon sur un de ses morceaux, j'étais là. Mais j'ai dit ça en n'imaginant pas qu'il allait me répondre dans les deux jours, et puis il m'a proposé il m'a dit envoie-moi tes propositions, que je n'avais pas. donc j'ai envoyé des propositions, et moi c'est ce que j'aime
pour moi, la musique et mes collaborations musicales partent toujours de l'humain. J'ai toujours d'abord envie de travailler avec des personnes qui m'inspirent. Je trouve que ça fait partie aussi du projet créatif. Oui. Je ne me verrais pas composer et créer pour une personne qui ne m'inspire pas humainement.
Oui. Ben ça rejoint justement l'interrogation que j'avais juste après, parce que vous avez travaillé avec des pointures quand même. Enfin, on parle d'Iggy Pop, on parle aussi de Nick Cave. Est-ce que c'est facile justement d'oser proposer des choses face à de telles icônes qui, en fait, j'ai l'impression qu'on a une petite piste déjà avec ce que vous venez de répondre, c'est que vous travaillez fort sur l'humain, en fait.
Oui, alors, petite parenthèse, j'ai effectivement... composer des lignes de violon et d'alto pour des morceaux sur lesquels figuraient Nick Cave, Debbie Harry, Mark Lanegan, mais je ne les ai pas rencontrés. Ce n'est pas eux qui... Parce que ça fait partie effectivement de ma bio, mais c'est une personne qui a rassemblé des gens pour réenregistrer des morceaux de Jeffrey Lee Pierce. Et donc, voilà, ça, c'est un peu la différence. Ils ne m'ont pas vraiment choisi. C'est cette personne-là qui m'a choisi et qui m'a réuni avec Nick Cave, que je n'ai pas rencontré. Je tiens à préciser parce que, voilà, ça fait partie des rencontres qui sont citées dans mon parcours.
Oui,
mais Iggy Pop, je l'ai vraiment rencontré, j'ai vraiment été vers lui. John Parrish, j'ai été vers lui.
Ouais.
Et voilà, c'est
un... Et du coup, pour le coup, ça a été des expériences complètement humaines, quoi. Enfin, je veux dire, justement, des choses à Iggy Pop. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont un peu intimidés quand même par des icônes pareilles.
Oui, mais alors justement, c'est quelqu'un de tellement simple et de tellement humain qui n'en a rien à faire de la notoriété de l'autre ou de la sienne, où il fonctionne aussi à l'instinct, et c'est ça qui était très beau dans cette rencontre, c'est que il suit ses envies.
Mmh.
Et moi, c'est ce qui me guide aussi, j'aimerais bien vraiment collaborer avec Nick Cave, mais il a déjà son violoniste et je ne pense pas que ça ferait partie de ses de ses projets, vu qu'il en a déjà énormément.
Bon, en tout cas, au Café Charbon, là, ce jeudi 5, vous serez en configuration solo. Vous multipliez les types de spectacles, donc vous pouvez être en duo, ou alors vous faites aussi partie d'un groupe, Nylon Wax. Vous avez aussi un live qui est dédié à votre album. Est-ce que toute cette multiplicité des expériences, c'est aussi ça qui vous stimule artistiquement ?
Oui, j'aime beaucoup jouer seule parce que c'est comme si j'étais dans ma maison et puis que j'allais explorer chaque recoin de chaque pièce. Mais jouer avec d'autres musiciens, c'est rien n'égale ça. C'est un partage, c'est une rencontre amicale, musicale, émotionnelle encore, qui est essentielle.
En fait, chaque expérience live a son petit plus, quoi.
Oui, c'est toujours, toujours une expérience différente. Et c'est ça que j'aime avec le live, c'est que, bon, même si on a préparé le concert, on ne sait jamais ce qui nous attend. On ne sait pas qui sera là, comment sera la scène. Par exemple, là, j'ai joué à Stockholm pendant 2 semaines. Je jouais dans un théâtre, je composais et jouais la musique live pour un spectacle de danse.
Ouais.
Et je connaissais pas ce lieu, il faisait froid dehors, la température changeait, mes violons, le son changeait. C'est chaque fois un challenge, mais que je trouve intéressant et passionnant. Et puis le public aussi. Moi, j'aime ces rencontres. J'aime rencontrer les gens et communiquer mon univers et puis avoir un échange avec ce public aussi.
Bah, en tout cas, le public ici a aussi très hâte de vous rencontrer, Catherine Grindorge. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve en live ce jeudi 5 décembre sur la scène du Café Charbon à partir de 18h30. Vous serez avec le duo Belfour, qu'on vient justement
d'avoir. Que je ne connais pas encore. On n'a pas encore eu l'occasion de, de partager la scène et on ne s'est même pas encore rencontrés en live, donc je suis très impatiente de les entendre et de les voir.
Merci Catherine Grindorge, on vous retrouve en live demain soir sur la scène du Café Charbon dans le cadre des concerts après minuit. Donc c'est ce jeudi 5 décembre à partir de 18h30, on écoute tout de suite l'un de vos titres.
With your hair around your shoulders, you're not following anymore.
Toujours sur Bac FM avec les échos du charbon. Là maintenant, on va prendre la direction des Balkans, de la Sicile ou plutôt des Caraïbes. Zia, groupe qu'on peut définitivement estampiller musique du monde, tant leurs influences sont chargées en sonorités de plusieurs coins de ce même monde, un melting pot bouillant à voir sur scène samedi au Café Charbon. Salut Élise, salut Goran.
Salut.
Ça va bien?
Bah oui.
Super.
Alors vous êtes 5 musiciens nivernais, aujourd'hui vous êtes 2. Mais comment on en vient à la constitution d'un groupe comme le vôtre?
Alors, on en vient qu'on est 5 musiciens liés par des amitiés, des histoires, etc. Et qu'on habite dans la campagne, alors, plutôt autour de Saint-Sauge. Et que, voilà, moi j'ai eu cette envie de regrouper ces personnes pour travailler la musique amplifiée et la musique du monde. Donc, on s'est constitué comme ça. Et puis, voilà, au fil de ces années, on grandit, on se développe.
On ne peut plus musicien parce que vous avez, c'est une ribambelle d'instruments que vous nous présentez quand même, qui vous accompagne sur scène. Enfin bon, alors
oui.
pour ce que les gens peuvent imaginer, il y a la guitare, il y a la basse, il y a l'accordéon aussi.
Ouais.
Il y a aussi du bouzouki si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait, Goran il joue du bouzouki, il est à la fois bouzouki et à la guitare.
Ouais. Ouais, je peux présenter l'instrument si vous voulez. Donc le bouzouki est une sorte de guitare qui est d'origine grecque en fait. Donc c'est une guitare à double corde. Donc il a 4 doubles cordes, donc 8 cordes. Voilà, donc c'est un instrument qui a des sonorités un petit peu orientales. Et c'est un instrument, je pense, qui est plus ancien que la guitare. Mais donc je joue aussi de la guitare. Et donc juste pour l'histoire du bouzouki, les Irlandais ont découvert le bouzouki grec il y a assez longtemps et ils ont fait un bouzouki irlandais, donc il existe deux sortes de bouzouki. Voilà.
Ouais, donc on a déjà un mélange d'influences, déjà même dans l'instrument lui-même.
Ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment une sonorité des Balkans, voilà, qu'on retrouve, on a beaucoup d'influences des Balkans dans notre répertoire. Donc oui, il incarne ça, le bouzouki carrément.
Et comment vous avez découvert ces instruments-là?
Bah donc Goran, il joue du bouzouki, donc c'était évident que voilà, ils mettent ce son-là, cette sonorité-là.
Mais sa question, en fait, sa question c'est...
Dis-moi.
Où je l'ai découvert?
Ouais, comment vous avez découvert ça?
L'anecdote est marrante, en fait. J'étais chez un copain à Stockholm, en Suède. Et il travaillait dans ce studio. Je vais dans le studio et je vois un bouzouki. Et puis il y avait des pédales d'effet diverses et variées, des delays, des chorus, etc. Et je me suis dit, faut absolument que j'essaie cet instrument avec les effets. Et là, je suis carrément tombé amoureux de l'instrument. Donc quand je suis rentré en France, j'en ai acheté un vite fait.
Ah oui. Voilà. Et comment on s'initie à ça? Comment on arrive à se perfectionner quand même? Parce que jusqu'à l'utiliser sur scène, je veux dire, il faut avoir quand même confiance.
Oui, après, bon, moi, j'ai une... je viens des instruments à cordes, j'ai fait un petit peu de guitare classique à partir de 16-17 ans, on va dire, et puis j'ai joué de la basse très longtemps, après, je suis revenu un peu à la guitare, donc c'est un instrument à cordes, finalement, la technique n'est pas très différente, en fait. On s'accommode à l'instrument, voilà.
Ok. Et du coup, j'imagine que vous avez quand même une curiosité pour toutes ces sonorités un peu... différente de ce qu'on peut écouter habituellement, de ce qu'on peut voir sur scène. Comment vous cultivez tout ça, cette curiosité?
Bah finalement, on est tous assez multi-instrumentistes. Donc, on a dans notre réservoir, voilà, chacun plusieurs instruments. Et bon, on ne les sort pas tous hein, pour Zia, mais on en sort un paquet. Et...
Ça serait un peu compliqué.
Ouais, ça fait beaucoup. Bah, après, à sonoriser, etc., ça fait beaucoup. Et on a déjà pas mal de choses. Bah, par exemple, Aurore, elle est à la fois à l'accordéon diatonique et au concertina, qui est un tout petit accordéon. Elle est aussi aux percussions et à la voix, principalement, bien sûr. Moi, c'est pareil, je suis au percu, à l'accordéon diatonique et à la voix.
Guillaume, il est à la basse, mais il fait aussi des percussions et des chœurs, par-ci, par-là.
Donc, en fait, vous entretenez...
Et Zitoun, il a tout un set de percussions diverses et variées. Ouais. Enfin, il y a un djembé, il y a un caron, un chaim, des cymbales, enfin, voilà.
Donc, on a beaucoup de timbres différents, du coup, qui ressortent au niveau instrumental. Et en plus des voix, bien sûr, qui sont quand même là aussi un élément hyper important d'IA. C'est
tout
très,
à fait.
Très vocal.
Ouais. Oui, il y a trois. En fait, il y a beaucoup de morceaux avec Aurore et Élise à deux voix féminines. Et puis, Mais enfin, moi aussi, j'ai un ou deux morceaux où je suis en voix lead ou bien avec Aurore et Elise. Enfin, voilà. Donc, ça fait que les gens qui viennent voir Zia en concert, en fait, ont la chance de pouvoir, en un seul concert, en fait, entendre des timbres différents et voyager aussi dans des pays, dans des univers différents. Parce que, contrairement à la plupart des groupes de musique du monde, qui sont sur une niche, sur une région, sur un pays. Nous, en fait, on arrive quand même à faire un peu le tour du monde. Ouais. C'est-à-dire, ça va en Afrique, ça va en Amérique du Sud, ça va en Europe de l'Est. Et malgré tout, les gens nous disent, vous arrivez à être cohérent avec ça. Donc voilà, ouais. On est content d'entendre ça.
Mais justement, je me demandais, et puis même ce public que vous devez aller chercher, hein, vous avez des influences, enfin, vous avez des émotions, vous jouez sur des émotions très très variées sur scène, c'est lancinant, puis après ça gagne en énergie, ça, ou alors ça devient un petit peu plus hypnotisant.
Complètement.
Je voulais savoir, ce public-là, est-ce qu'il entre dans l'univers facilement ou est-ce que vous devez vraiment aller le chercher ?
Je crois qu'il entre facilement, hein, de ce qu'on observe de tout, voilà, des dates qu'on a pu faire par le passé. En effet, on le fait monter en émotion, hein, parce que c'est souvent intense, quoi, dans les thématiques, puis dans notre façon de chanter. On est dans des voix assez puissantes, et puis on part dans la danse, etc. Donc, je crois que les gens, à un moment donné, ils se laissent aller et facilement on les voit danser. Donc, je crois que s'ils se forcent pas.
Ouais, mais c'est aussi comment dire. Mais je pense que tous les groupes qui jouent sur scène connaissent un peu ces choses-là, c'est-à-dire que il y a une gestion de l'énergie et des émotions qu'on va envoyer, c'est-à-dire on commence doucement.
Après oui,
on va
vous faire construisez
un truc,
votre set.
Voilà, il y a un truc qui est construit pour que pour amener les gens finalement à se libérer un petit peu.
Tout à fait. On passe beaucoup de temps à réfléchir à ça. Voilà, comment est constitué notre set et à faire au mieux pour le public, bien sûr.
Et donc vous êtes inspiré, du coup, comme on a dit, par énormément d'influences qui sont venues d'ailleurs. J'imagine que vos parcours personnels, ils enrichissent aussi. Ils s'enrichissent les uns des autres dans le groupe, mais du coup comment on fait, parce qu'en fait justement Bran, tu as dit que le public ne ressentait pas que toutes ces influences étaient superposées les unes sur les autres, mais que ça faisait qu'elles étaient bien liées,
que c'était cohérent, que
tout était cohérent. Je voulais savoir comment vous faisiez pour lier chacune de ces influences sans que l'une prenne le dessus sur l'autre, ou sans que ça devienne indigeste, en fait.
Eh ben, il y a Elise qui nous dit, attends, on a beaucoup de morceaux de l'Est, on en rajoutait un d'Afrique.
Je me doutais qu'on allait partir sur, il y a forcément quelqu'un qui...
On va le dire clairement, c'est Elise qui a réuni les musiciens, et voilà, c'est un peu elle qui nous lead. Voilà. Après, comment on arrive à rendre ça cohérent? Je pense que c'est parce que le groupe a un son qui reste le son du groupe malgré qu'on aborde des répertoires divers et variés. Donc, donc on garde une identité par notre instrumentation et les timbres qu'il y a dedans.
Et nos voix, et les timbres de nos voix, voilà, etc. Donc on a une unité qui se crée de ça, quoi. Mais on va retrouver, en effet, par exemple, si la compo qu'on va écouter tout à l'heure, là, peut-être c'est dans tes questions qui arrivent, d'ailleurs.
Vas-y.
Mais clairement, quand on compose, en fait, on retrouve à la fois nos swings afro, nos rythmiques, Troima par exemple, là il y a une rythmique qui est impair, donc ça on retrouve ça plutôt dans le répertoire des Balkans. On va être dans des voix slaves, on va être, donc tout ça crée en fait petit à petit notre son de groupe, quoi.
Ouais,
notre identité. Ouais.
Je me demande quand même toutes ces influences différentes, où est-ce que vous arrivez à les puiser? Est-ce que ça vous vient naturellement? Est-ce que c'est ce que vous écoutez tous les jours? Est-ce que vous allez chercher dans des archives reculées?
Alors, je crois que c'est nos parcours à chacun, c'est-à-dire que je vais peut-être dire des bêtises, mais je vais grossièrement, Zitoun a beaucoup joué du reggae, mais aussi de la chanson française. Aurore vient beaucoup du trad et adore, est aussi très rock. Guillaume, pareil. Moi, j'ai beaucoup écouté de musique tzigane, des Balkans, beaucoup de reggae aussi. Qui c'est que j'ai oublié? Toi, Goran?
Je suis d'origine de ex-Yougoslavie, donc voilà, même si je suis né en France, donc en fait j'avais ces musiques-là qui m'ont influencé à un moment, bien que quand j'étais jeune je faisais pas du tout ça en fait. J'écoutais toutes sortes de styles aussi, du funk, du reggae, j'ai même fait du métal, on va dire, pendant 7, 8, 10 ans, quand j'avais la vingtaine. Et puis après, j'étais dans les musiques dub. Et après, je suis parti dans les musiques du monde. Et là, ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis plutôt dans ce genre de répertoire. Mais je pense que c'est une curiosité de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, qui nous animent tous.
Qui nous font voyager. Ouais.
Et puis vous découvrez quand même aussi les univers des uns et des autres dans le groupe.
Ouais, complètement. Ça vient vraiment nourrir ça, et nourrir la création, quoi, tout à fait. Mais je pense qu'on a tous un goût pour le voyage, pour les cultures différentes, pour les modes orientaux aussi. On les a dans l'oreille. Il y a eu quand même toute une vague dans les années 2000 et avant, mais surtout très branchée musique du monde. D'ailleurs, au Café Charbon, il y avait des groupes sensationnels à cette époque-là aussi, donc de musique du monde. Donc on a été bercés. Enfin, moi, à cette époque-là, j'avais à peine 20 ans dans les années 2000. J'ai été vraiment bercée par toute cette culture d'ailleurs, quoi, en fait. Mmh. Et même à Nevers, quoi. Je vivais à Nevers. Et donc, ça laisse des empreintes, ça fabrique l'oreille. Et aujourd'hui, on est fait de ça, entre autres, hein, avec toutes les influences aussi actuelles. Hein, mais je pense que ça nous a construit, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais, puis on a très hâte de voir cette intensité. Sur scène, ouais. En tout cas.
Ça va être chouette.
Le 7 décembre.
Ouais.
Oui, voilà.
Et avec la Mossa.
Exactement. J'allais faire le petit récap final. Je ne sais pas si on peut dire que vous créez un genre nouveau, en tout cas, mais ce brillant mélange, il est intense, et puis il est vraiment à voir sur scène, à expérimenter sur scène. Voilà, donc vous jouerez avec la Mossa,
oui.
Le 7 décembre,
ouais,
prochain. Ouais. La Mossa, qui a un chœur polyphonique, c'est aussi incroyablement fou. Un chœur féminin. Donc vous jouerez dans le cadre du festival Migrant Scène,
ouais,
qui est organisé par la CIMA. Donc c'est ce samedi 7 décembre à partir de 20h. Les billets sont à prendre sur www.café-charmant-nevers.com ou alors au comptoir le soir même. Les filles, les gars, les autres, sortez en concert. En attendant, on s'écoute Troïma de Zia.
Nuestras caras en ese entrar hasta